Bonjour Louis.
Eh bien, bonjour.
Deux dossiers qui touchent les Autochtones, ça touche nos premiers ministres également. Commençons par Justin Trudeau, là, qui est dans l'ouest du pays. Ça brasse ces temps-ci avec toute l'histoire du fameux oléoduc.
Exactement. Puis hier, Justin Trudeau, puis j'ai un peu de misère à comprendre pourquoi ses conseillers lui ont dit que ce serait une bonne idée d'aller faire ça à Kamloops hier, là, mais il tenait un town hall. Il y avait à peu près 1000 personnes qui étaient réunies dans un gymnase d'école. Et puis, il répondait aux différentes questions que lui posaient les gens, puis ça pouvait toucher à peu près n'importe quoi. Puis il prenait les questions à la volée. Mm-hmm. Évidemment, avec tout ce qui s'est passé, puis l'éviction de 14 personnes sur une barricade qui avait été érigée contre la construction du pipeline Coastal GasLink, c'est dans le nord de la Colombie-Britannique. Il y avait des Autochtones qui avaient érigé une barricade là. Puis la GRC est rentrée en force et a délogé ces gens-là. Mais il fallait s'attendre à ce qu'il y ait de la contestation de la part des communautés autochtones du secteur. Et hier, là, moi, je l'ai écouté, l'entièreté, si on veut, du town hall. Ça a duré à peu près une heure et demie. Justin Trudeau s'est fait ramasser à plusieurs reprises par des participants des communautés autochtones qui s'en sont pris à lui sur le projet de GasLink, mais aussi sur le projet de pipeline là que le fédéral a acheté à Trans Mountain et qui s'en va vers la Colombie-Britannique, qui passe à travers des terres autochtones en Colombie-Britannique. Puis eux autres sont pas contents de ça. Alors juste vous faire entendre un peu de quelle façon ça s'est passé hier quand Justin Trudeau essaie de répondre justement à la question d'une femme autochtone sur la question de GasLink et sur le pipeline. Écoutons comment ça se passe.
Okay. If I can answer, I understand the anger and the passion that you have.
Alors c'est comme ça pendant à peu près 10 minutes là dans cette section là et j'ai du mal à comprendre ce que Justin Trudeau va chercher comme capitale politique dans une année électorale de se mettre comme ça. Ça prenait du courage, remarque là. Et puis il a bien fait. La dernière fois qu'il avait fait un town hall en Colombie-Britannique, ça avait dégénéré. Souviens-toi qu'il s'en était pris à un des participants puis il avait crié après. Mais dans ce cas-ci, il gagnera pas là-bas. D'abord, les Autochtones votent très peu. Ensuite, les Autochtones de la Colombie-Britannique sont en maudit contre Justin Trudeau pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Je comprends pas vraiment ce qu'il va chercher comme appui politique avec des rencontres comme celle-là où il se fait ramasser pendant à peu près une heure et demie. J'ai un petit peu de misère à comprendre ça. Écoute, hier, ça a été vraiment un exercice assez pénible pour Justin Trudeau.
Parlons de François Legault qui, lui, indispose les Micmacs de la Gaspésie.
Ouais. Ouais, ben là, écoute, après l'histoire d'Apuyat sur la côte nord, il s'est mis les communautés autochtones là-bas à dos, les Cris entre autres à dos. Ben là, on apprend que le 2 janvier, en plein congé des fêtes, ben le ministère de l'Environnement a lancé un avis public pour faire une évaluation environnementale du projet Galt. Le projet Galt s'est situé à peu près 25 kilomètres de Gaspé. Ça traverse encore une fois des terres qui appartiennent aux Micmacs. Et là, les Micmacs sont pas contents parce que eux disent qu'ils avaient obtenu l'assurance en fait du gouvernement qu'on allait les consulter avant de lancer une évaluation environnementale, puis ils l'ont pas été. Alors sont en beau fusil. Et moi, je trouve que François Legault est en train de se préparer un réveil difficile avec les communautés autochtones du Québec. Pourtant, en campagne électorale en septembre dernier, François Legault avait dit ni plus ni moins qu'il voulait une espèce de paix des braves, mais nationale avec toutes les communautés autochtones. Je te le fais entendre en conférence de presse. C'était le 25 septembre en pleine campagne électorale.
Et moi, je pense que c'est important là, de prendre le modèle de Bernard Landry avec les Cris, puis de faire de nation à nation des ententes à long terme pour qu'éventuellement, que ce soit dans le minier, dans le forestier ou n'importe quel secteur, qu'on soit capable de travailler ensemble pour d'abord que les projets, les autorisations de projets se fassent plus rapidement et deuxièmement, qu'on inclut plus d'employés qui viennent des Premières Nations.
Alors, force est d'admettre que
l'atterrissage est un peu difficile, là.
Ben oui, parce que, tu sais, la paix des braves avait été saluée par à peu près tout le monde quand Bernard Landry l'avait signé au début des années 2000, je pense que c'était en 2001, et c'est une entente vraiment avant-gardiste avec les communautés autochtones. Là, François Legault disait que lui, il voulait une paix des braves, mais avec toutes les communautés du Québec, sur tous les sujets du Québec. Puis là, ben, dans les deux premiers dossiers qu'il touche en tant que premier ministre, il se met les communautés autochtones à dos. Alors, je trouve que c'est mal parti pour une paix des braves 2.0.
Bon, là, le déficit de crédibilité de l'émetteur du message, là, ouais. Admettons que l'archevêché se met les pieds d'un plat là, avec son histoire de sexualité des enfants là, dans les cours qui vont être donnés dans les écoles.
Exactement. Bon, on fait référence, bien sûr, à cet article ce matin dans la presse où on dit que, bon, l'archevêché recommande à des parents catholiques de retirer leurs enfants du cours de sexualité, en fait, qui va être offert dans les différentes écoles à peu près à tous les niveaux. On parle de la pudeur, de respecter la pudeur naturelle des jeunes. Et là, on propose un manuel qui est destiné aux parents catholiques. Moi, quand l'Église catholique commence à se préoccuper de la sexualité des enfants, moi, j'ai toujours un petit mouvement de recul. Je me dis, ah oui, est-ce que c'est vraiment les meilleurs pour parler de ça? Alors là, ce qu'on propose, on dit que ce que pourraient faire les parents, en fait, c'est de retirer les enfants du cours et là, de donner eux-mêmes la formation ou le contenu, si on veut, pédagogique aux enfants. Or, le ministre Roberge a déjà dit qu'il était hors de question d'accorder des exemptions aux cours sur des cas pour des raisons religieuses. Il avait dit, M. Roberge, que si on faisait des exceptions, c'était pour des cas vraiment très, très, très spécifiques et très, très, très précis, comme par exemple un enfant qui aurait été victime d'agression sexuelle ou des cas semblables. Peut-être que là, on pourrait avoir une petite réserve puis dire, on ne le fera pas, on va attendre un peu ou on va le faire dans un autre contexte. Mais pour des raisons religieuses, la CAQ et le ministre Roberge ont déjà dit qu'il n'était pas question de retirer les enfants. Et c'est ce que propose l'archevêché de Montréal. Puis là, il y a des faussetés dans ce qu'on dit d'ailleurs, dans cette espèce de manuel, quand on dit que les enfants de première année vont devoir apprendre les parties internes et externes, les parties sexuelles internes et externes du corps humain. C'est pas vrai, ça arrive en deuxième année. Mm-hmm. Si on regarde le contenu, il y a du contenu à partir de la première année jusqu'au secondaire, mais évidemment, le contenu est adapté selon l'âge. Et ça a été créé par des experts. Il y avait eu un projet pilote sur ces cours de sexualité-là et on avait interrogé les parents dont les enfants avaient participé aux cours en question et il y avait un taux de satisfaction, à mon souvenir, qui était autour de 86%. Alors, est-ce que c'est... Écoute, les parents ont tout le temps un malaise à parler de ça parce qu'ils savent pas comment le faire. On leur prépare, en fait, on prépare un guide pédagogique pour les enseignants. Alors, c'est un peu bizarre de voir l'archevêché qui vient dire « retirez vos enfants et n'en parlez pas ».
Bon, en quelques secondes, Louis, oui. François Legault qui rencontre Valérie Plante aujourd'hui.
Oui, exactement. François Legault, depuis quelques jours, a rencontré plein d'acteurs du secteur économique. Il a rencontré le président de la Banque nationale hier. Il a rencontré Pierre-Marc Johnson sur l'accord de libre-échange avec l'Europe, Daniel Boyer de la FTQ, la CSN, etc. Et là, aujourd'hui, il y a une rencontre avec la ministre Plante. Et à 2 heures cet après-midi, il va y avoir une annonce qu'on me dit assez importante ou assez intéressante avec une compagnie qui s'appelle Denso, D-E-N-S-O, qui est spécialisé dans l'intelligence artificielle pour les voitures. Okay. Alors, eux, ce qu'ils développent, c'est des espèces de senseurs pour rendre les voitures encore plus intelligentes. Et on me dit qu'il y aura aujourd'hui une annonce assez intéressante qui sera faite en après-midi là-dessus. Mais tout ça pour dire que depuis quelque temps, François Legault s'est lancé dans des espèces de consultation, que je dirais, économique, de développement économique avec plusieurs acteurs. Il a rencontré le Cirque du Soleil, il a rencontré les Bromfoon pour le développement du baseball à Montréal. C'est pas juste du sport, là, le développement du baseball, il y a de l'économie là-dedans aussi. Bref, il y a plusieurs rencontres qu'il est en train de faire François Legault en ce début de nouvelle année pour essayer de se faire une espèce de, j'ai l'impression, de tête là sur ce que devrait être le développement économique au Québec.
Merci Louis, on se reparle demain.
Bien sûr.
Salut, il est 7h15. La 19, Linda.